Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue sur le podcast Ivoire Talent. Vous avez reconnu la voix, c'est Marc Landry et Franck Fadé pour le podcast Ivoire Talent, qui est votre rendez-vous hebdomadaire d'information et de partage d'expérience sur les sujets brûlants de la vie active et professionnelle. Et nous avons un invité spécial. Comment tu vas, Franck?
Bonjour Landry, je vais super bien. Et bonjour aussi à tous nos auditeurs. Effectivement Landry, tu l'as si bien dit. Aujourd'hui, nous avons, disons, une nouvelle invitée. Et comme d'habitude, je ne vais pas vous dire tout de suite son nom, mais je vais vous la présenter. Je vais vous donner un peu son histoire. Et puis vous allez deviner si vous êtes très fort. Alors, la personne que nous recevons aujourd'hui, c'est une scientifique. Elle est titulaire d'un bac C au lycée classique d'Abidjan. Et après son bac C, elle entre à l'Institut National Polytechnique Oufoué-Boigny de Yamoussoukro, dans les classes préparatoires. Et elle arrive à sortir de ces classes-là, parmi cette foule d'étudiants, des bacheliers qui viennent de toutes parties du pays. Elle arrive à sortir à entrer en cycle ingénieur. Et après 3 ans de cycle ingénieur, elle vient dans la vie active et elle rentre à Schlumberger. Schlumberger, qui est une entreprise pétrolière. En parallèle à cela, elle a également eu plusieurs distinctions, dont la prestigieuse distinction YALI, Mandela Washington Fellowship. Et donc, elle a été distinguée par l'ambassade des États-Unis. Et elle a fait un séjour aux États-Unis dans le cadre de ce programme. Et depuis 2019, elle est en Angleterre dans le cadre d'une bourse qu'elle a obtenue. Et aujourd'hui, elle va nous parler de sa vie en Angleterre et de cette bourse. Donc, je vous invite à recevoir Habiba Traoré. Merci Habiba d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur le podcast Ivoire Talent.
Bonsoir Franck, bonsoir Marc-André. Merci à vous pour l'invitation. Ça fait plaisir de prendre part à cette conversation. Voilà, j'ai hâte que la discussion commence.
Ok. Ok, ce qui est super, Habiba, merci de nous faire ce plaisir de participer à ce podcast et de partager avec nous ton expérience. Mais moi, j'aimerais rapidement te demander une question. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton métier que tu faisais avant de partir en Angleterre?
D'accord. Comme Fadi l'a bien mentionné, mon expérience, ma récente expérience est faite chez Schlumberger. Et le dernier poste que j'occupais avant de commencer mon MBA, j'étais ingénieur senior et manager d'équipe offshore. Donc, okay. J'étais dans les opérations au sein du département forage et mesures. En gros, le travail consistait d'une part à planifier des projets d'exploration offshore, préparer la documentation avec les clients, le management, s'assurer que les équipements sont prêts, bien dispatchés, coordonner avec la logistique et la maintenance. Et d'autre part, il y avait le volet exécution des projets sur les plateformes en pleine mer avec des équipes de 4 à 6. Et aussi, après l'exécution, le traitement de la distribution des données de forage aux clients. Donc, en gros, sans rentrer dans trop de détails techniques.
Ah, ok. C'est un peu plus clair. Mais bon.
Waouh! En tout cas, franchement, c'est incroyable comment tu as réussi à résumer en quelques phrases. Parce que j'entends tout ce que tu faisais. La gestion des équipes, la gestion des différents corps de métiers et puis des étapes, c'est vraiment waouh. Mais dis-moi, Habiba, comment et à quel moment tu as eu ce désir-là d'aller poursuivre tes études à l'étranger, au milieu de toute cette occupation, au milieu de toutes ces tâches que tu avais à gérer? À quel moment tu as pensé à cette décision-là de partir à l'étranger pour poursuivre tes études?
Ok. En fait, je crois que depuis l'INPHP déjà, on avait déjà nourri cette ambition-là de ne pas s'arrêter au diplôme d'ingénieur, en fait. Donc, on explorait déjà des opportunités après le diplôme d'ingénieur, notamment des masters spécialités ou bien des MBA. Mais quand on est rentré dans la vie active, avec le salaire et tout, pour être honnête, les avantages liés au métier et tout, on a eu tendance à ne plus trop y penser, en fait.
Ok.
Je pense qu'après mes 5 années dans la même entreprise, notamment Schlumberger, il y a une certaine curiosité qui m'a poussée à vouloir explorer de nouveaux horizons. Surtout que le travail était devenu un peu... Disons que 5 années, c'est quand même beaucoup et il y a certaines tâches qui devenaient répétitives. Donc, il y avait cette routine-là et aussi le fait que l'industrie pétrolière est une industrie assez cyclique. avec la fluctuation de l'offre, la demande et les prix, il y a des répercussions sur la structure des entreprises, il y a des renvois périodiques et à un certain moment, les opportunités de progression sont de moins en moins évidentes. Donc, tout ça réuni, je pense qu'il y a une année de cela, j'ai vraiment décidé que c'était le bon moment en fait, pour obtenir un nouveau diplôme et puis explorer de nouveaux horizons.
Wow, c'est clair. Et puis, comme tu l'as dit, tout le monde, lorsqu'on était sur les bancs, on ne voulait pas s'arrêter. Après le diplôme d'ingénieur, on voulait poursuivre les études. Mais quand tu arrives aussi, pour poursuivre les études aussi, souvent aussi, il y a le volet expérience aussi. Lorsque tu commences à rechercher, surtout même pour un programme MBA, la plupart des programmes MBA demandent quand même, pour toi-même, tes interactions, même en classe, tu as besoin d'avoir une certaine expérience parce que souvent, voilà, la moyenne d'expérience est de, entre 5 jusqu'à X. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Maintenant, moi, j'aimerais qu'on essaie de plus creuser dans la bourse Chevening. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est exactement et comment tu en as entendu parler?
Alors, la bourse Chevening, déjà une brève définition, c'est une bourse du gouvernement anglais. Donc, ce n'est pas une bourse d'une organisation ou c'est une bourse du gouvernement anglais et qui finance entièrement, j'insiste sur le mot, entièrement, des masters d'une année en Angleterre. Donc, il y a trois mots-clés, financer entièrement les masters et puis une année. Voilà, mais il y a une exception sur le côté entièrement financé. Pour les MBA, la bourse Chevening, malheureusement, ne finance pas, ne prend pas en charge tous les frais de scolarité parce que les MBA sont en général un peu chers. Donc, pour les MBA, c'est capé à 18 000 livres.
Okay. Voilà. Ce qui fait combien en euros?
En euros...
Puis en CFA, peut-être.
En version rapide, on va multiplier ça par environ 800.
Voilà, ça fait un peu plus de autour de 13 millions par de
non en 14 millions 400.
C'est ça.
Voilà, pour les MBA. Mais par contre, les masters, c'est financé entièrement. Et les masters, au UK, en général, ils coûtent environ 30 000 livres en moyenne. Voilà. Et la bourse Chevening, en fait, la vision de Chevening, c'est d'encourager des talents du monde entier qui ont un certain potentiel pour devenir des leaders, des influenceurs de demain, changer, contribuer au développement du pays et par ricochet du monde. Donc, c'est ça la vision de Chevening, en fait. Il faut avoir un potentiel pour devenir un futur leader ou influenceur. Dans ce cas-là, Chevening vous accompagne avec le financement. Quand je parle de financement, ça comprend en fait les frais de scolarité, mais il y a également une allocation mensuelle pour vous permettre de vivre décemment pendant que vous étudiez. Donc l'allocation, en général, l'allocation permet de couvrir les frais d'habitation, la nourriture, les vêtements, les déplacements. Et c'est une belle somme qui fait que vous n'avez pas nécessairement besoin de puiser dans vos fonds propres. Et aussi, la bourse prend en charge vos billets d'avion aller et retour.
Intéressant.
Mais tu as dit une chose sur laquelle j'aimerais revenir. Tu as dit que pour les MBA, c'est financé à hauteur de 18 000 livres et pour les masters, c'est jusqu'à 30 000.
C'est entièrement financé.
Ok. Mais pourquoi cette différence, en fait?
En fait, comme j'ai mentionné, je pense que c'est pour permettre à un grand nombre de personnes de bénéficier de la bourse. Disons, Chevening va préférer peut-être financer 10 personnes qui vont faire un master qui coûte 28 000 plutôt que de financer moins de personnes qui vont faire des MBA de 50 000 litres. Donc, c'est un peu le galoche, voilà. Puisque les MBA sont chers, généralement, vous pouvez financer.
Oui, je comprends, mais je me suis dit aussi qu'à la limite, on aurait pu financer les MBA à hauteur de 30 000 livres comme ça pour faciliter un peu plus la tâche, quoi, parce que c'est comme si on plafonne ça à 10 000 livres, et puis bon, pour les masters, on prend ça entièrement, qui souvent ça peut atteindre 30 000 livres, tu vois. Bon,
anyway,
c'est leur programme.
Je pense aussi que, après avoir discuté avec les gens, la logique derrière, comme tu l'as dit là, pour les MBA en général, les gens ont un certain nombre d'années d'expérience, donc des économies à la base.
C'est ça.
Aussi, en fait, moi, par exemple, je ne paye rien parce que je bénéficie à la fois de la bourse Chevening et d'une bourse de mon école.
OK.
Donc, il y a certaines universités qui sont, on appelle ça des universités partenaires de Chevening. Okay. Lorsque vous bénéficiez de la bourse, pour bénéficier aussi du niveau de l'école. Mais c'est pas sur les autres.
Yeah, c'est clair.
En fait, les efforts sont partagés entre Chivning et puis l'université, quoi. Ah, mais ça, c'est intéressant. Mais au moins, j'en ai entendu parler, Abiba, de cette bourse-là, Chivning. Personnellement, moi, je l'ai connu juste tout récemment et je ne sais même pas encore ce que ça veut dire. Comment tu en as entendu parler?
Alors, en fait, la bourse Chivning, j'en ai entendu parler via mon réseau de Yali, comme tu l'as mentionné dans l'introduction. Donc, en fait, la bourse existe depuis longtemps, mais il y a des pays qui sont éligibles. Et je pense que la Côte d'Ivoire n'est éligible que depuis 2016.
OK, ça make sense maintenant.
Donc, il y a l'année de 2016, il n'y a pas eu de lauréat en Côte d'Ivoire. En 2017, on a eu... 2017-2018, il y en a eu 3. 2018-2019, 4. Il y en a eu 4 la première année, 5 la deuxième année, et cette année, nous sommes 6. Donc, j'en ai entendu parler. La plupart de ces lauréats-là sont aussi des lauréats du programme de Mandela Washington Fellowship. Donc, c'est via eux, en fait, que j'ai entendu parler de la bourse. Sinon, moi-même, personnellement, j'ignorais l'existence de cette
bourse. C'est intéressant, ça. C'est-à-dire, c'est un peu un effet ricochet. Parce que le Mandela lui-même, c'est une bourse, mais qui est aux États-Unis. Le Mandela Washington Fellowship t'a permis de rentrer dans un réseau de personnes qui ont eu la chance de faire des formations aux États-Unis. Et c'est à partir de ce moment-là que tu as pu avoir des informations sur la bourse Chivning. Ça montre un peu l'importance de... Comment est-ce que c'est important de rentrer dans ce genre de réseau-là après la formation professionnelle, mais la formation académique. Très intéressant.
Et aussi, le fait que, comme je l'ai mentionné, la Bourse Chivning, quand ils font l'analyse des applications, ils essaient de voir le potentiel de leadership. Donc, ayant participé à un programme tel que le Mandela Washington Fellowship, déjà, ça attire un peu l'attention.
C'est clair.
J'aimerais rebondir un peu rapidement, parce que tu as dit que la première année, il y a eu 4 personnes, la deuxième année, 5 personnes. Oui. Et je me demande, ces 4 et 5 personnes-là, après avoir fait les études au UK, au Royaume-Uni plutôt, United Kingdom, Royaume-Uni, qu'est-ce qu'elles sont devenues après? Est-ce qu'elles sont restées là-bas? Est-ce qu'elles sont revenues en Côte d'Ivoire ou est-ce qu'elles ont... Quel a été leur point de chute en fait après la formation offerte par la bourse Chivning?
D'accord. Alors, ces personnes-là, j'en connais quelques-unes. La plupart d'entre elles ont fait des masters.
Okay.
Elles sont toutes retournées en Côte d'Ivoire parce que dans le contrat de la bourse Chivning, il y a une clause qui stipule qu'après la formation... Vous devez retourner au pays pour un minimum de 2 ans.
Exactement, c'est comme le Fulbright.
Exactement. Donc l'objectif, c'est de se former, de retourner, mettre en application ce qu'on a au service dans l'idéal, dans l'absolu.
Cependant, dans le système américain ici, il y a ce qu'on appelle le OPT. OPT, c'est une autorisation de se faire une expérience pendant 1 an. Après, bon, c'est ouvert aux étudiants internationaux ici. Est-ce que vous avez, en tant que, parce que même si vous bénéficiez de la bourse, mais vous êtes considéré là-bas comme des étudiants internationaux, est-ce que vous bénéficiez de ce même type de temps pour se faire au moins une expérience, même si c'est 1 an, même si c'est 2 ans, avant de retourner dans votre pays? Est-ce que cela existe dans le programme Chivning?
Ok, j'allais justement parler de ça. Donc, en fait, jusqu'à cette année, pour la bourse Chivning, vous aviez une année de formation, comme je l'ai mentionné, et vous pouvez rester jusqu'à six mois après la formation, avant de rentrer. Ça, c'était jusqu'à cette année. Mais il y a une nouvelle loi qui a pris effet, enfin, qui prendra effet pour les boursiers qui commenceront l'année académique 2020-2021, les autorise à rester 2 ans de plus.
Ok, très bien, excellent.
Oh, c'est super ça.
Bon, après, même si les personnes sont revenues en Côte d'Ivoire, je suppose que la bourse et puis le passage au UK les a peut-être aidés dans leur carrière professionnelle.
Si, ça a ouvert des opportunités à plus d'un en termes de progression de carrière, même de changement de carrière. Voilà, franchement, c'est une bonne opportunité. Et même, il y a des cas, enfin, c'est pas ce que Chivning recommande, mais il y a des personnes qui ont bénéficié de la bourse et qui ne sont pas nécessairement retournées dans leur après la formation.
Ils ont calé.
Jusque-là, Chivning n'a pas appliqué de sanctions contre eux.
Il y a toujours des moyens pour passer entre les mailles du filet, mais bon.
Et aussi, je discutais avec quelqu'un qui est dans le programme qui me disait que, de toutes les façons, si vous trouvez quelqu'un qui a fait une organisation qui accepte de vous sponsoriser, que ce soit en Angleterre ou bien dans d'autres pays, mais qui ne sont pas nécessairement vos pays d'origine, c'est négociable avec Chimie.
C'est qui est clair. Moi, j'aimerais que tu reviennes un peu sur le processus d'obtention de la bourse, c'est-à-dire quels étaient les prérequis. Je sais que tu avais été déjà dans le programme YALI, dans le programme Mandela Fellowship, que tu avais pu être retenu, mais pour les autres personnes qui ne sont pas peut-être dans le YALI ou bien qui n'ont jamais été YALI, quel est le processus? Tu peux décrire le processus et puis dans ton cas spécifique, parce que je sais que normalement pour un master, il y a les tests standards qu'il faut prendre, soit le GMAT, soit le GRE et aussi le TOEFL pour la maîtrise de l'anglais. Donc toi particulièrement, dans ton cas, est-ce que tu peux nous décrire le processus? Comment ça s'est passé pour l'obtention de la bourse?
D'accord. Bon, déjà, avant de répondre à ta question, pour ceux qui n'ont pas nécessairement fait le Mandela Washington Fellowship, je peux préciser que les boursiers actuels de la Côte d'Ivoire ne sont pas que des Mandela Washington Fellowship. Il y
Ok,
a
super.
personne avec différentes expériences, donc faut pas du tout s'effrayer sur ce point-là. Voilà. C'est un moyen de démontrer son leadership parmi tant d'autres. Voilà.
C'est ça.
Déjà, OK, avant de parler du processus d'application en tant que tel, j'ai déjà mentionné mon anglais en train de revenir, sorry, les critères de l'éligibilité. Voilà. Il faut résider dans un pays qui est éligible à la bourse. Voilà, il y a environ 160 pays dans le monde et maintenant la Côte d'Ivoire fait partie, comme j'ai mentionné. Mais il faut juste pas avoir une partielle nationalité anglaise. Voilà. Faut être entièrement de nationalité qui n'est pas anglaise. Faut avoir un diplôme de niveau universitaire. Ça, je pense que parce que c'est une condition pour être admis dans les universités anglaises, les masters en fait. Donc, ça fait partie aussi des critères de Chimie. Et faut avoir un minimum de 2 années d'expérience. Donc, 2 années d'expérience, Chevening converti en termes d'heures de travail en fait. Donc, quand vous allez remplir l'application, vous allez donner des détails qui vont leur permettre de calculer le nombre d'heures. Et 2 années pour Chevening, ça correspond à 2800 heures. Donc, quand Chevening parle d'expérience aussi, ça peut être full time, part-time, ça peut être du volontariat, ça peut être des stages, voilà. Donc, une fois que ces conditions-là sont remplies, vous pouvez commencer le processus d'application. Donc, il y a différentes étapes pour le processus d'application. Ça commence par une application en ligne qui s'étend généralement de début août à début novembre. Donc,
Chaque année.
voilà, pour le moment, c'est cette plage de temps-là. Donc, dans cette phase-là, vous devez sélectionner les cours et les universités auxquelles vous souhaitez postuler pour la bourse. Il ne s'agit pas d'avoir une offre définitive, d'avoir déjà commencé à postuler pour les universités. Il faut juste sélectionner. Vous avez 3 choix à faire, 3 opportunités. Donc, faut sélectionner 3 cours, 3 universités, juste pour que Chivin sache. Vous devez remplir les informations personnelles et vous devez répondre à 4 questions des IC où on vous demande de parler un peu de votre potentiel de leadership, de pourquoi vous voulez faire cette formation, pourquoi cette université, de qu'est-ce que vous espérez de l'Angleterre, de comment vous percevez le networking, de quels sont vos objectifs à long et à court terme, entre autres. Vous devez aussi donner des preuves de votre éducation. Comme j'ai mentionné, un diplôme de niveau universitaire, donc on demande des relevés et un certificat. Et vous devez donner 2 références, que ce soit académique ou professionnelle. Donc, ça, c'est le processus d'application en ligne de début à début novembre. Donc, une fois que vous faites ça, Chivling va parcourir les applications et puis cross-checker contre les critères d'éligibilité. Et en février, vous aurez éventuellement une confirmation que vous êtes présélectionné pour un interview. Voilà. Par mail. Donc, de novembre à février, vous devez vous assurer que vous fournissez les preuves d'éducation et les 2 références. Donc, une fois que vous avez la confirmation de l'interview, vous êtes interviewé le début mars, je crois. Et donc, l'interview, c'est une opportunité de discuter de si vous voulez éventuellement changer de cours. C'est-à-dire, vous avez constaté que vous aviez dit que vous alliez faire un MBA à Warwick et vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas meet tous les critères de Warwick, donc vous décidez de changer l'université. J'ai l'opportunité de discuter avec l'ambassadrice de l'Angleterre en Côte d'Ivoire et puis les responsables de la bourse pour voir si c'est faisable ou pas. Voilà. En début juin, vous avez les résultats. Donc, on vous dit si vous êtes confirmé. Vous pouvez aussi être en réserve. En réserve, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui est confirmé qui existe, on vous rappelle. Ou alors, vous n'êtes pas accepté du tout.
D'accord.
Donc, maintenant, pour le test d'anglais.
Mais bien avant le test d'anglais, l'interview avec les responsables de l'ambassade, ça se fait en quoi, en français ou en anglais?
En anglais.
Ok.
C'est fait en anglais.
En fait, faut préciser ça parce qu'il ne faudrait pas que, voilà. Il ne faudrait pas que d'autres personnes partent et puis elles se retrouvent être totalement surprises, quoi. Donc.
Oui, tout se fait en anglais.
D'accord.
L'application en ligne se fait en anglais. Donc, jusque-là, je n'ai pas mentionné les tests anglais ou les tests théoriques. Donc, pour le chimning, on n'a pas besoin de GMAT ou de GR. Pour la bourse chimning, c'est juste un test anglais. Ça peut être le IELTS, ça peut être le TOEFL, et il y a d'autres tests ici, je crois. Donc, il faut avoir un score minimum. Dans mon cas, c'était... J'ai décidé de faire le IELTS et le score minimum qui était prérequis, c'était un score de 5.5 sur une échelle de 8.
OK.
Voilà. Donc, c'est ce test d'anglais-là qui est prérequis et vous avez de début août où vous commencez l'application en ligne-là jusqu'à mi-juillet pour soumettre les résultats de votre test d'anglais.
OK.
Voilà. Donc, il y a largement du temps depuis l'application jusqu'à la confirmation. C'est-à-dire que Chivni même vous dit, on vous sélectionne pour la bourse déjà avant que vous ne donniez les résultats de votre test d'anglais. Voilà.
OK.
Et aussi, Et aussi, en général, les masters, en général, la plupart des universités ne demandent pas les GMAT ou le GRE. Mais pour les MBA, par contre, il y a certaines universités qui le demandent. Moi, par exemple, dans mon cas, l'université de Warwick demandait un GMAT avec un certain score minimum de 6. Voilà. Donc, pour faire cette distinction-là déjà, le GMAT ou le GRE, ce n'est pas pour la bourse, mais ça dépend de la formation et de l'école dans laquelle vous voulez aller.
Donc, du coup, tu as dû faire aussi le GMAT?
Si, oui.
Ah, waouh. Alors là, en fait, ce que je voulais demander tout à l'heure, c'est le test de IELTS, là, c'est l'ambassade ou bien c'est l'organisation, ceux qui organisent la bourse qui l'organise ou bien tu peux le faire ailleurs et puis envoyer tes résultats?
Alors, le test de IELTS, ce n'est pas Chivlin qui le fait. On a, en Côte d'Ivoire, il y a une, enfin, dans le monde de façon générale, il y a ce qu'on appelle le British Council qui organise les tests de IELTS et ils ont une représentation au Ghana et depuis l'année dernière, je crois, ils organisent aussi des tests en Côte d'Ivoire en collaboration avec l'ambassade.
OK.
Mais pour les boursiers de cette année, par contre, à cause de la pandémie, la plupart des tests étaient fermés, donc Chivlin a simplement enlevé cette mission-là.
De façon exceptionnelle.
Voilà, c'est pas exceptionnel.
Coronavirus, souvent, ça donne pas non.
ça peut aider aussi. Hein,
ça peut aider.
OK. Mais le processus est vraiment très clair. On voit que c'est un processus qui est long. Ça commence depuis, j'ai cru comprendre, juillet.
Depuis août.
Depuis août.
De août, voilà, jusqu'à juillet de l'année où vous allez commencer. C'est vrai que quand je l'explique comme ça, il a l'air long ou intense, mais la répartition sur plusieurs mois, en fait, ça aide. Et c'est assez flexible. Donc, pour moi, c'est un avantage, en fait.
Effectivement. Et lorsque...
Vous n'avez pas beaucoup de stress à la fois sur une même période.
Ouais, c'est étalé, en fait.
Voilà.
Le stress est... Mais lorsque vous êtes reçu, est-ce que vous devez forcément partir, commencer la formation dans le mois qui suit, je veux dire l'année qui suit, après août, après juillet, août, septembre, est-ce que vous devez partir? Ou bien est-ce qu'il est possible, par exemple, de faire un report, par exemple, d'un an, de deux ans, si, par exemple, on n'est pas disponible au moment donné?
Non, d'après ce que je sais, il n'est pas possible de faire un report. C'est pour l'année académique qui commence juste après. Si vous n'êtes pas disponible, on attribue la bourse à quelqu'un.
Ok, tu vas refaire tout le processus.
Voilà.
Ok, Ok, c'est intéressant. Ok, d'accord.
Et ce qui est même très intéressant avec ce processus-là, c'est que tu n'as pas forcément besoin de passer les tests standards, là, comme le GMAT et le GRE, parce que souvent,
Si.
c'est ça qui rend la tâche un peu plus difficile pour nous francophones.
Effectivement.
Parce que pour avoir un bon score, le score qu'il te faut pour entrer dans
Effectivement.
l'université, tu peux te taper pratiquement 6 mois, en fait. Donc,
Je
c'est vraiment
confirme.
intéressant. C'est vraiment, vraiment intéressant de donner cette bourse-là sans même demander les tests standards, là. Maintenant,
Si, si.
toi, selon l'université dans laquelle tu veux partir, et ça, c'est un conseil aussi pour ceux qui nous écoutent, si vous n'avez pas envie de vous casser la tête avec ces tests standards-là, sachez choisir vos universités. Vous choisissez des universités qui demandent
Effectivement.
le GMAT ou bien le GRE, vous allez le faire tranquillement, quoi. Et puis voilà, vous partez, vous vous en sortez. Mais si vous devez passer ces tests-là, c'est intéressant parce que ça ouvre l'esprit. Mais moi, j'aimerais savoir quelles sont les universités qui sont prises en compte dans le cadre de ce programme Chevening. C'est-à-dire toutes les universités qui sont au niveau de UK ou bien il y a certaines universités qui sont déjà partenaires.
D'accord. Alors, il y a certaines universités qui sont déjà, enfin, qui sont appelées universités partenaires parce qu'elles ont déjà eu un grand nombre de boursiers Chevening. Mais au-delà des universités partenaires, il y a un grand nombre d'universités qui sont éligibles pour la bourse. Il faut juste que la formation que l'université offre fasse un an. Voilà. Et voilà, en gros, c'est ça. Donc, il y a des masters et il y a des MBA, mais pas de PhD. Et sur le site de Chevening, il y a, comment ils appellent ça, une liste des universités qui sont éligibles. Il y a un grand nombre d'universités, pratiquement toutes les universités qui offrent des formations de une année, master ou MBA. Il y a la London School of Economics, il y a Cambridge, Oxford, Imperial, Cass, Warwick, mais il n'y a pas London Business School parce que là-bas, c'est des MBA de plus d'une année.
C'est plus d'une année. Oh, donc tu fais un MBA d'un an en fait.
Voilà, c'est ça. Une année. Il y a un
Ok,
grand nombre
intéressant.
d'universités et il y a même l'option sur le site de Chevening. Si vous trouvez une formation dans une université qui correspond aux critères que j'ai mentionnés, une année, master ou MBA, et qui n'est pas dans la liste, vous pouvez faire une requête pour que cette formation, cette université-là soit ajoutée à la liste. Voilà.
Wow, c'est une très belle flexibilité en fait, c'est intéressant.
C'est intéressant, surtout. Et puis, il y a de très belles universités, hein. Cambridge, London School of Economics, ça, ce sont des universités. Même Warwick, où tu es aussi, je sais qu'il y a Essex aussi, qui est une université là-bas.
Manchester,
Exactement, il y a Liverpool aussi, l'université de Liverpool. En tout cas, c'est vraiment une super bourse qui, bon, comme tu l'as dit, il n'y a pas longtemps que la Côte d'Ivoire a été éligible, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose de. C'est jamais. Aller à l'école gratuitement, là, c'est trop bon.
Et oui,
Pour chez
et
toi.
franchement, c'est l'un des objectifs de Chevening, en fait. Le fait de. Parce qu'en général, la plupart des bourses ne prennent pas et en charge les frais de scolarité et le logement, la nourriture, le transport, les billets d'avion et tout. L'objectif de Chevening, en fait, c'est de vous décharger de ce stress financier-là pour que vous puissiez vous concentrer sur vos objectifs professionnels. Voilà.
En fait, Abiba, j'avoue que tu as répondu en partie à une question que je me posais, mais tu as dit tellement d'éléments que j'ai quand même des éléments de réponse. En fait, je me demandais pourquoi la bourse Chevening? Mais vu que déjà tu viens d'expliquer que l'hébergement, la scolarité, le déplacement, les vêtements et même les billets d'avion sont pris en compte, je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter. Sinon, franchement,
Oui,
on est déjà
il
un
y a
pouvoir.
beaucoup de raisons. Oui, il y a beaucoup de raisons. Parce que, bon, déjà, à la base, moi, je voulais faire un programme d'une année. Voilà, donc c'était déjà un trade-off. Donc j'avais le choix, les MBA en France, en Angleterre, ou en Espagne, ou en Suisse. Pas nécessairement les États-Unis où la plupart des MBA sont 2 années. Donc, dans ce cadre-là, déjà, quand je fais la comparaison des bourses d'université pour ces différentes destinations-là, je crois pour HEC et compagnie, tu as la bourse Baignan. Après, tu as d'autres bourses, mais franchement, soyons honnêtes, ça
Ça
ne
ne
couvre
couvre pas tout.
pas l'essentiel des dépenses.
Exactement.
Donc, du coup, la Boost Evening, elle a attiré mon attention. Et la destination UK aussi m'a interpellée en termes de réputation académique et aussi le côté exploration, parce que j'aime bien voyager. L'un de mes objectifs, on vient d'insister de faire le maximum de vie. J'ai bien commencé Corona Mavisto. Donc voilà, déjà c'est pour le côté, comme tu l'as dit Fadé, le côté, le package financier et le fait que ce soit une année, mais aussi à cause du réseau de Tiffany. Comme je l'ai dit, la bourse est octroyée à des étudiants de plus de 260 pays. Donc, tu as un éventail de nationalités, d'expériences, de formations. Et contrairement aux autres bourses qui étaient disponibles pour l'Angleterre, c'est l'une des bourses avec le plus de diversité, en fait. Tu as d'autres bourses comme les bourses que les entreprises elles-mêmes offrent aux étudiants. Par exemple, tu as Boston Consulting Group qui donne des bourses aux femmes qui veulent faire des MBA de une année dans certaines écoles. Mais après, en termes de réseau, c'est assez limité. Tu as Moui Ibrahim aussi qui donne des bourses aux Africains qui veulent faire des MBA à London Business. Mais après aussi, c'est juste un réseau d'Africains. Alors que Giving, c'est, il y a vraiment une diversité. Donc, c'est le côté réseau, en fait.
C'est clair.
Au-delà de ça, ça, ce n'était pas une raison pour laquelle j'ai choisi Chigny, mais c'est quelque chose que j'ai découvert au fil de l'expérience. Chigny ne se contente pas de vous donner le support financier. C'est une expérience tout le long de l'année. Donc, quand vous arrivez au UK, il y a un sommet pour vous accueillir, où vous rencontrez. Tout le monde est là, voilà, des milliers de personnes. Vous échangez des séances de network et tout. Vous rencontrez des personnalités. Et tout au long de l'année, il y a différentes opportunités de réseautage comme ça. Donc, il y a différents événements autour de différents thèmes. Vous rencontrez des professionnels, des membres du gouvernement. Voilà. Donc, c'est assez enrichissant. Il y a beaucoup d'opportunités de networking qui se font tout au long de l'année. Donc, ça, franchement, c'est un plus pour la bourse.
OK.
Franchement, ouais, je confirme.
Yeah, c'est clair. Mais parle-moi un peu, parce que tu as dit que tu as commencé, je ne sais pas si tu as dit, ton tourisme au niveau de la Grande-Bretagne. Parle-moi un peu de ton intégration là-bas, comment ça s'est passé. Et puis surtout, parce que souvent, nous en tant que francophones, on a ce petit problème-là, lorsqu'on parle l'anglais, le petit problème de l'accent. Parle-moi un peu de ton expérience avec les anglophones.
D'accord. Bon, c'est vrai que l'intégration, ça peut être un challenge. Mais pour moi, personnellement, je vais dire que mon expérience à Schlumberger a joué en ma faveur.
Okay.
Parce qu'à Schlumberger, la langue de travail, c'est l'anglais. Donc, travailler 5 années dans cet environnement-là, ça m'a permis de m'habituer à certains accents.
Okay.
Et ça m'a permis aussi moi-même de fine-tuner mon accent pour que les autres me comprennent. Mais néanmoins, en Angleterre, il faut avouer qu'il y a une variété d'accents. Si tu discutes avec quelqu'un de l'Écosse, c'est totalement différent que si tu discutes avec quelqu'un de l'Irlande.
Exactement.
Franchement, il y a une panoplie d'accents. Donc, parfois, c'est assez compliqué pour moi de saisir ce que les autres disent. On fait avec, voilà. Si on ne comprend pas quelque chose, on demande à la personne de répéter plus lentement ou voilà. Donc, Il y a toujours ce petit challenge-là avec certaines personnes qui ont un accent particulier. Mais de façon générale, ça s'est plutôt bien passé. Et surtout côté académique, je n'ai pas vraiment eu de difficultés à comprendre pendant les cours ou à discuter avec les autres membres de ma cohorte qui ont eux-mêmes des accents aussi divers, hein, accent indien, accent latino, accent nigérian. Mais on arrive quand même à se comprendre, voilà. Souvent on rit de nos accents et tout, mais on se comprend quand même. Après ce qui a peut-être un peu, c'est pas vraiment un challenge, quoi. Après ça dépend de la personne, c'est peut-être la météo qui est assez traumatisante. Il faut l'avouer.
Il y a assez d'anecdotes, il y a assez d'anecdotes sur la météo en Angleterre.
J'ai 5 parapluies brisés avec moi.
Ah, exactement.
C'est-à-dire que tantôt il fait beau, aussitôt il se met à pleuvoir
Ah,
avec des vents
exactement.
violents. C'est vraiment la météo imprévisible. Parfois tu te retrouves en été en plein hiver, parfois c'est l'hiver en plein été. Ça, franchement. Donc,
Ah.
du coup, si pour quelqu'un qui décide de venir en Angleterre, il faut pas planifier ses activités en fonction du temps. Il faut être prêt à faire ce qu'on a à faire, quel que soit le temps. Il faut toujours avoir un parapluie avec soi.
Wow,
Voilà.
c'est donc vrai.
C'est très vrai.
Exactement.
On
dit
Je
ça
n'avais pas
toujours.
considéré ce facteur-là en venant, mais bon.
Ok.
C'est pas. Et
Ah, top.
côté nourriture aussi, peut-être. Ça va dépendre de l'endroit où vous vivez. Si c'est une ville assez cosmopolitaine comme Londres, vous n'aurez pas forcément de difficultés parce que y a beaucoup de nationalités. Donc, il y a beaucoup de choix en termes de shopping, il y a des marchés africains et tout. Donc, ça ne sera pas compliqué. Dans certaines villes aussi, à côté de Londres, même dans d'autres villes, vous avez une variété de choix aussi quand la population est assez diversifiée. Par contre, dans des zones où c'est purement British, le côté nourriture, ça peut être un peu un challenge. Voilà.
Ah, ok. En tout cas, moi, je trouve l'accent british assez glamour, quoi. J'espère que tu t'es habitué au thé aussi.
Moi, à la base, j'aimais le thé. Donc,
Ah,
là,
ok, c'est
j'avais
ça.
une
Là, tu as ton élément.
variété de thé de qualité. Franchement, il n'y a rien à dire.
Ah, ok.
Intéressant. En même temps, ça m'a rappelé un petit point peut-être qu'on n'a pas abordé au niveau des critères ou bien du processus d'admission à la bourse. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une limite d'âge?
Il n'y a pas de limite d'âge pour la bourse.
Ah, mais c'est
Ça,
magnifique.
c'est super.
Donc,
Aucune
tout
limite
le
d'âge.
monde
Même si
peut y
vous
aller.
avez 60 ans, que Chivning estime que vous avez du potentiel, postulez.
Ah, ça, c'est magnifique. Donc, à tous nos auditeurs, la bourse Chivning n'a pas de limite d'âge. En tout cas, il y a des critères minimums à respecter, mais apparemment, il n'y a pas de limite d'âge vraiment affichée dans les critères pour postuler à la bourse. En même temps, si j'ai bien suivi le parcours, je suppose que tu as commencé les cours autour de septembre ou octobre 2019.
Oui, j'ai commencé les cours en septembre 2019.
D'accord. Donc, d'abord, comment ça s'est passé le début des cours et avec cette crise Covid qui a démarré, disons, en fin d'année 2019, mais qui a été plus visible, disons, février-mars. Comment est-ce que vous vous êtes adapté? Est-ce que vous avez pu poursuivre les cours? Comment est-ce que ça s'est passé?
Donc déjà, moi, je suis arrivée avec une semaine de retard parce que j'ai reçu mon visa en retard. Mais bon, voilà, c'était juste la semaine d'intégration à l'école et tout, mais mon intégration s'est quand même bien passée. Le premier semestre, on l'a fait en face à face, donc avec différents modules, différentes opportunités de networking. Ça s'est plutôt bien passé. Mon MBA, comme je l'ai dit, je le fais à la Warwick Business School et cette année, on a une cohorte de 120 élèves. Et on a environ 40 nationalités. Ça, c'est l'avantage des MBA. 40 nationalités et diverses expériences professionnelles. Donc, ça a vraiment été enrichissant en termes de partage d'expériences et de, comment on dit ça, de apprentissage de bonnes pratiques dans divers domaines, en fait. Donc, il y a eu ces échanges-là. Ça, c'est l'avantage aussi des MBA, d'avoir cette variété d'expériences-là par rapport à certains masters. Donc, ça s'est bien passé, les cours plutôt bien organisés. Et mon école, on a un support comment ils appellent ça, un career support. Donc, on a des coachs de carrière, des professionnels de certains domaines comme la finance, le consulting ou la technologie qui nous accompagnent. Donc, ça a été
Intéressant.
assez enrichissant. Et puis, malheureusement, on a eu le corona et le lockdown à partir de mars. Néanmoins, pour mon université, les cours ne se sont pas arrêtés. On est plutôt passé en télétravail, télé-études, pardon, online learning. Et l'un des avantages, en fait, c'est que la Warwick Business School a des full-time MBA, ce que je fais. Elle a des executive MBA et aussi des distance learning MBA qui se font en ligne. Et le distance learning MBA de Warwick est classé premier par le Financial Times. Donc, juste pour dire que la plateforme d'apprentissage en ligne de mon université était déjà assez mature. Donc, ça nous a permis de facilement transiter en ligne sans interruption, en fait. Okay. Donc, les cours en ligne se déroulent plutôt bien. La collaboration, ça va. Le seul bémol, en tout cas pour moi en particulier, c'est le fait de rester longtemps face à l'écran. Ça me fatigue un peu les yeux. Mais sinon, côté technologie et tout, la transition s'est bien faite. Les cours ont continué, les projets, les travaux de cours, certains événements de networking virtuel, même si la plupart des événements qui regroupaient un grand nombre de personnes ont été annulés à cause de la distanciation sociale. Mais les gens font quand même des efforts pour garantir des événements en ligne. Voilà. Même Evening qui a l'habitude aussi d'organiser des événements de networking face à face a commencé aussi à faire des événements de networking en ligne pour continuer dans la logique de réseautage de Evening. Donc, voilà. Côté académique, le coronavirus n'a pas vraiment freiner les choses, c'est juste la technologie qui a pris le dessus sur le côté face à face. Voilà.
C'est ça.
C'est notre affaire.
Voilà. En fait, ça montre également l'importance des plateformes de formation en ligne. Il faut être à mesure de basculer là-dessus quand vraiment c'est nécessaire ou bien quand on ne peut pas le faire tout en présentiel. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est là à tout moment. Donc, à tout moment, tu peux revenir, revoir des éléments. Je trouve ça vraiment très intéressant.
Oui, le lockdown continue. Ça, c'est un avantage.
D'accord. Donc, Abby, nous tendons allègrement vers la fin de notre entretien. Mais moi, j'aimerais te poser la question. Est-ce que tu peux donner un peu des conseils à certaines personnes qui aimeraient faire comme toi, c'est-à-dire laisser un boulot bien rémunéré pour repartir à l'école? Et aussi, certaines personnes qui aimeraient aussi se lancer dans l'aventure Chevening comme toi.
Personne pense à éventuellement laisser leur boulot pour suivre une formation académique. Qu'est-ce que je peux dire? Déjà, moi, je pense que c'est toujours bien d'avoir cette curiosité intellectuelle-là, de vouloir apprendre de nouvelles choses. Et franchement, on en a besoin en Afrique, on en a besoin dans nos pays. Donc, moi, je les encourage. Maintenant, après, on fait la part des choses aussi. Je sais que c'est pas évident de laisser un travail avec un salaire bien rémunéré, surtout quand on a une famille ou des personnes qui dépendent de notre revenu mensuel. Donc, ça va dépendre un peu des circonstances de chacun. Il faut vraiment réfléchir de façon posée pour voir quels sont les sacrifices éventuels qu'on est prêt à faire. Quelles sont les choses sur lesquelles on ne veut pas faire de sacrifices. Est-ce que si on part à l'étranger une année, est-ce que ça va affecter notre relation avec notre conjoint ou notre relation avec notre famille et tout? Faut bien réfléchir à tout ça. C'est pas quelque chose à faire dans la précipitation.
C'est clair.
Et aussi en termes de quitter son boulot, ce n'est pas nécessairement la seule option pour suivre des études. On peut prendre une année sabbatique. On peut discuter avec ses managers en termes de rémunération. C'est vrai que tout le monde n'est pas flexible dans ce sens-là, mais voilà, il y a d'autres perspectives. Donc, moi, je pense que c'est bien de vouloir continuer à s'éduquer, à acquérir de nouvelles compétences, surtout que le monde change de plus en plus rapidement. Tout évolue à un rythme, franchement, très rapide. Il y a de nouvelles techniques de management, de nouvelles techniques de gestion, de nouveaux concepts en business, la technologie qui évolue rapidement. Donc, c'est bien de rester à jour et de notamment partir dans des pays qui sont assez développés et qui ont déjà atteint un niveau de maturité en termes de ce genre de changement-là pour pouvoir apprendre. Il faut surtout rechercher les bonnes informations parce qu'il y a beaucoup, de nos jours, il y a beaucoup d'informations un peu partout, mais il faut savoir distinguer l'information vraie du bruit. Donc, il faut avoir les bonnes conversations et aussi, il faut se préparer. On ne se lève pas comme ça pour vouloir faire un MBA ou autre chose. Comme Marc Langley l'a souligné en début, les MBA en général, les masters en général ils demandent 2 à 3 années, mais les MBA en général, c'est un peu plus. Donc, que ce soit un master même ou un MBA, peu importe, il faut déjà s'assurer que, si on pense à le faire déjà quelques années avant, il faut s'assurer que l'expérience professionnelle qu'on est en train de construire là-bas nous aider lorsqu'on va postuler pour une bourse ou pour une école. Donc, avoir les bonnes relations avec ses managers, par exemple, parce que c'est eux qui vont écrit vos lettres de recommandation, entre autres. Donc, voilà, il faut se préparer pour que quand on sera vraiment prêt à sauter le pas, on ait tous les atouts pour pouvoir le faire. Voilà. Pour ceux qui hésitent, je crois que tu as mentionné ceux qui hésitent. Bon, après, je ne sais pas les raisons pour lesquelles ils hésitent, mais j'estime qu'elles sont valables. Mais comme on le dit, hein, qui ne tente rien n'a rien. Donc, il faut faire confiance à sa curiosité et puis expérimenter. Et si c'est une question de « je ne pense pas que ce soit le bon moment », il n'y a pas de moment parfait. Donc, voilà. Moi, je vous encourage en tout cas à développer vos compétences et à explorer les opportunités qui sont disponibles en termes de sponsorship, de bourse d'études. Et surtout, il y a des opportunités pour lesquelles il n'y a pas de limitage, comme pour la bourse d'études. Voilà.
Ah, ça, c'est super. C'est super. Dans le milieu anglophone, on parle beaucoup plus de informed decision, c'est-à-dire ce sont des décisions basées sur des données, sur ou bien des informations sur que tu as. Donc, pour tous ceux qui veulent se lancer dans ce genre d'aventure là, c'est mieux d'avoir des informations sur afin de vous aider dans votre processus de décision.
Pour la petite anecdote, hein, comme j'ai dit là, j'ai découvert la bourse via mon réseau de Money à Washington. Mais figurez-vous que dans la discussion, j'ai mentionné que je ne voulais pas faire un master normal, que je voulais faire un MBA. Mm-hmm. Et ils m'ont dit comme ça, mais est-ce que la bourse finance les MBA? Parce qu'à la base, ils ont tous fait des masters et ils n'ont pas forcément, puisqu'ils étaient intéressés par des masters, ils n'ont pas forcément l'information selon laquelle Chivning finance les MBA. Ce qui a mentionné quelque part, un peu caché sur le site web. Donc, c'était à moi d'aller fouiller. Et puis, tandis que si je m'étais basée sur leur retour, j'aurais certainement soit pas postulé si je voulais faire forcément un billet ou bien juste postuler pour un master. Donc,
effectivement.
Faut vraiment... Et j'encourage ceux qui sont intéressés par la bourse à aller sur le site. Il y a toutes les informations sur le site. Il y a des step-by-step pour chaque phase du processus. Il y a des articles de blog, il y a des facs, il y a des erreurs à éviter. En fait, il y a tout sur le site. Et aussi, si vous êtes intéressé, vous pouvez suivre la page Facebook de l'ambassade du Royaume-Uni en Côte d'Ivoire, qui poste souvent des updates par rapport à la bourse, des reminders pour ceux qui veulent apply. Et aussi, il y a des lives, ils font des Facebook lives chaque année, avec des anciens participants de la bourse ivoirienne où les internautes peuvent poser des questions et voilà.
Ok. Et par rapport au point que tu évoquais tout à l'heure en disant qu'il faut être bien informé, je pense que c'est une chance de t'avoir pour donner toutes ces informations là parce que là on a l'information de source et je sais qu'on a un proverbe africain qui doit confirmer ça. On dit que l'eau la plus pure, c'est l'eau qui vient de la bouche de la grenouille. Donc là vraiment on a l'information de source et je pense que ça c'est un élément très important et il faudra en profiter. En tout cas personnellement moi j'ai beaucoup appris et le fait qu'il y ait pas de limite d'âge, ça me donne un peu d'espoir et ça me donne de la marge. Et je compte en profiter.
C'est clair. Nous sommes pratiquement à la fin, donc on va te laisser partir sans te demander ton mot de fin, Habiba.
Déjà, merci. Merci d'avoir eu l'idée de cette conversation-là. Voilà. Parce que c'est vrai, parfois, il y a des personnes comme moi qui ont certaines informations, mais qui n'en parlent pas forcément. Donc, c'est bien que vous, en tant qu'Ivoire Talent, vous preniez l'initiative de nous faire parler. J'ai apprécié partager les quelques informations que j'avais. J'espère avoir éclairé la lanterne de personnes qui sont éventuellement intéressées. Voilà, j'espère que d'autres personnes vont se lancer et que tout va bien se passer. En tout cas, moi, j'encourage ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés.
Super. Donc,
merci à vous et voilà.
Ok, merci à toi, Biba. Et c'était un réel plaisir de t'avoir aujourd'hui. Nous sommes à la fin de notre épisode de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode avec un autre invité. Comme vous le savez, les invités, ils nous enrichissent par leurs connaissances, par leur expérience. Nous aurons encore un autre invité la semaine prochaine. D'ici là, nous vous disons à bientôt et rendez-vous dans une semaine sur le podcast Ivoire Talent. À bientôt.
Bye.
Bye.